Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Ainsi
Amen.
soit-il.
Jésus fit là le premier de ses miracles à Cana en Galilée, et il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui. Mes frères, après avoir célébré la nativité et l'épiphanie du Verbe incarné, voici qu'en ce jour de l'année liturgique, deuxième dimanche après l'épiphanie, commence son ministère public. Notre Seigneur Jésus-Christ est à Cana avec sa mère et avec ses disciples, et il fait son premier miracle, et ses disciples, dit Saint Jean, crurent en lui. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Ce premier miracle est bien connu, c'est le miracle de la transformation de l'eau en vin. Nous avons plusieurs choses à voir aujourd'hui avec l'aide du Saint-Esprit. Nous verrons tout d'abord pourquoi et comment le vin vient à manquer. Nous verrons comment la Bienheureuse Vierge Marie intercède pour nous et quelle conclusion nous devons en tirer pour notre propre pratique de la prière d'intercession. Deuxièmement, nous verrons rapidement ce que signifient les urnes remplies d'eau, ce que dit en particulier Saint Bernard à ce propos. La signification des urnes remplies d'eau, comment elles doivent être remplies, et nous parlerons aussi de la tentation de les laisser à demi vides. Et enfin, nous terminerons en voyant comment Dieu fait tout pour sa gloire. Nous verrons aussi comment nous devons exercer un certain discernement sur nous-mêmes grâce aux impies. C'est une chose très intéressante que nous verrons, je l'espère, et nous verrons aussi comment il faut conserver le souvenir des opérations divines dans notre vie. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
En ce temps-là, il se fit des noces à Cana en Galilée, et la mère de Jésus y était. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Et le vin venant à manquer, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont pas de vin. » Mes très chers frères, lorsque nous lisons les commentateurs de cet évangile si célèbre de la transformation du vin de l'eau en vin aux noces de Cana, eh bien ils nous disent que l'ancienne alliance, c'est-à-dire l'Ancien Testament, se caractérise par la loi de Moïse, dont le but est de faire comprendre, de faire apprendre à l'homme sa corruption, de lui faire confesser et faire l'expérience de sa concupiscence, la triple concupiscence, de lui montrer aussi la tendance spontanée qu'il a à l'idolâtrie et à la rébellion vis-à-vis du vrai Dieu. En un mot, la loi de Moïse, qui est le fondement de l'Ancienne Alliance, eh bien, a pour but de faire naître, de souligner la nécessité du Sauveur. Lorsque nos pères dans le désert et ensuite dans la terre promise se furent engagés auprès de Dieu à accomplir tous ses commandements et à observer sa loi, la première chose qu'ils ont faite dans le désert encore, c'était de se faire une idole et de l'adorer, l'idole du veau d'or. Ensuite, lorsqu'ils sont rentrés dans la terre promise, eh bien, Moïse les a fait, ou plutôt Josué leur a fait jurer d'observer tous les commandements de la loi. Et ils sont montés sur deux montagnes, et à deux cœurs, ils ont répété tous les commandements de la loi, et ils ont prononcé sur eux-mêmes, ou sur tous ceux qui transgressaient la loi, la malédiction de la loi. Tout ceci ne les a pas empêchés, à la première occasion, de ne pas éradiquer les nations païennes de la Terre Sainte, de faire des alliances avec eux, de les laisser vivre, d'adopter leur Dieu, d'adopter leurs enfants, enfin disons de marier leurs enfants avec leurs enfants, et de telle sorte qu'ils ont appris très rapidement à commettre cet adultère spirituel qu'est l'idolâtrie. La loi de Moïse avait pour but de montrer à l'homme combien son cœur était dur, combien grande et profonde était sa corruption, et lui faire soupirer après la nécessité, l'avènement du Sauveur dont Moïse avait prédit la venue. Il nous faut donc comprendre, mes très chers frères, que ce vin qui vient à manquer, les auteurs nous disent qu'il représente, sous un certain rapport, l'Ancien Testament, qui amène l'homme à reconnaître l'extrême nécessité dans laquelle il est de Dieu, et qui amène l'homme à reconnaître que sans la grâce, il ne peut rien faire, et qui l'amène aussi à prendre conscience que sans une transformation du cœur, tous ces rites, tous ces commandements que Moïse, qui étaient bons et que Moïse lui avait donnés, eh bien, ne pouvaient pas le sauver, puisqu'il fallait que la grâce agisse à l'intérieur. Le vin vient donc à manquer dans l'Ancien Testament, et c'est pour cela, en quelque sorte, qu'il a été donné, pour que nous puissions voir, que nous puissions constater combien inutile était ce premier vin. C'est pour cela que, dans cet évangile, nous lisons ce curieux principe qui est énoncé par le maître d'hôtel. Il dit « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis après qu'on en a bu beaucoup, il en sert du moins bon. » Voilà une sorte de parole de professionnel, si l'on peut dire, qui montre un petit peu les trucs du métier, c'est-à-dire qu'on sert d'abord le bon vin et ensuite le moins bon, quand les gens ne sont plus vraiment en état de faire la différence entre le bon et le moins bon. Eh bien, mes très chers frères, il y a un mystère dans ces paroles de ce maître d'hôtel, assez ignorant, qui ont été rapportés dans l'Évangile, consignés dans l'Évangile. Les auteurs nous disent ceci. Après que les joies du monde aient été pleinement utilisées, ou abusées, si on peut dire, par l'homme, eh bien, l'homme fait l'expérience de l'amertume de l'enfer. Après que l'homme ait suivi spontanément sa corruption propre, vient l'amertume du châtiment, même temporel, de la corruption. Et d'une certaine manière, ce qui n'est pas la corruption, mais ce qui est le révélateur de la corruption, la loi, eh bien, nous a fait goûter dans l'Ancien Testament certaines délices, qui sont, par exemple, cette terre riche, regorgeant de lait et de miel, qui était la terre promise, et qui est toujours la terre promise. Après avoir fait goûter certaines réalisations de promesses temporelles de Dieu, elle a fait comprendre, elle a permis aux Hébreux, nos pères les Hébreux, elle leur a fait prendre conscience que tous leurs péchés les ont finalement conduits, eux qui ont tant abusé des grâces de Dieu, eh bien, des bénédictions divines, les ont conduits à être déportés dans des pays étrangers, et à être là un exemple de la servitude du péché que connaît ceux qui n'en sont pas délivrés par la grâce du médiateur, la grâce du réparateur, la grâce du Messie, notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a donc, dans toutes ces explications que nous avons données à partir des pères, une ligne, disons, directrice, c'est que si nous commençons par la chair, nous finirons aussi par la chair. Si nous commençons par l'esprit, alors il y a une possibilité de terminer dans la gloire, puisque toute œuvre bonne que Dieu commence lui-même d'une façon efficace, il la conduit aussi à sa perfection pour le jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a donc, mes très chers frères, dans ce principe énoncé par le maître d'hôtel, quelque chose de très vrai, non pas quelque chose que nous devons mettre en pratique nous-mêmes, puisque cela ne nous concerne pas directement, nous ne sommes pas là en train de truquer les banquets, nous comprenons simplement que le diable, c'est-à-dire l'homme ennemi, nous sert d'abord le bon vin, et ensuite, quand on en a beaucoup bu, il nous en sert du moins bon, pour dire le moins. Nous devons comprendre que si nous cédons à la pente naturelle de notre nature, eh bien, il se trouve que nous serons déçus. Alors que si nous nous soumettons à la grâce de Dieu, alors nous verrons que nous passons du moins au plus, nous passons de la souillure à la purification. Si nous apprenons bien la leçon que nous donne la loi de Moïse, nous comprenons que la prévarication sans fin, des Israélites ne sont que l'illustration de ce que peut la nature sans la grâce de Dieu. C'est-à-dire qu'elle n'est pas incapable de vouloir le bien, elle n'est pas incapable de désirer de tout son cœur plaire à Dieu, mais elle est incapable de le faire. C'est pour cela qu'il est écrit « Dieu nous donne le vouloir et le faire ». D'une certaine manière, il y a beaucoup de gens dans le monde qui voudraient faire le bien, même qui ont des velléités, même certaines volontés pour la religion. Nous ne disons pas qu'ils ne peuvent absolument pas vouloir ce qui est bien. Mais c'est une chose que de vouloir d'une volonté qui est impuissante, et c'en est une autre que de vouloir, même petitement, mais d'une volonté qui est inspirée par Dieu, de telle sorte que cette volonté, se manifestant par des actes, elle mérite, ces actes méritent un accroissement de grâce qui font passer cette petite mais très réelle volonté de l'état de graine à l'état de plante accomplie. Tout ce qui procède de la nature, nous enseigne la loi, est corrompu, souillé, ou du moins limité et caduque. Regardez les Hébreux, encore une fois, ils avaient juré solennellement plusieurs fois d'obéir et de garder les commandements de Dieu, ils n'ont pas réussi à le faire durablement. Regardez-nous, bien souvent, lorsque nous sommes dans la Nouvelle Alliance, eh bien, il se trouve que bien souvent, nous prenons des bonnes résolutions, de fermes propos, que nous ne tenons pas. Pourquoi ? Parce que la grâce nous fait défaut. C'est-à-dire que nous nous comportons de telle manière que nous ne méritons pas d'obtenir ou de recevoir cette grâce et de la conserver. Dieu donne sa grâce, bien entendu, à qui la demande. Encore faut-il pouvoir la conserver. Lorsque les hommes sont ivres, dit le texte originel, et cum inebriati fuerint, lorsqu'ils deviennent ivres, on leur en sert du moins bon. Cet enivrement des hommes témoigne de la vanité de la vie. Beaucoup de gens dans le monde sont capables de parler et d'avoir une certaine notion de la vanité de la vie. Mais peuvent-ils comprendre, les mondains, les mécréants, peuvent-ils comprendre en quoi consiste cette vanité de la vie ? La vie n'est pas vaine en soi, contrairement à ce que disent certains mécréants qui insultent Dieu, puisqu'il est l'auteur de l'existence humaine et il n'est pas l'auteur de quelque chose qui n'a pas de sens. Donc lorsqu'ils disent que la vie n'a pas de sens, ils blasphèment en réalité. Mais lorsque le chrétien se rend compte que la vie a quelque chose de vain, le chrétien sait que c'est dans la mesure où Dieu n'en est pas le centre, et n'en est pas le moteur, et n'en est pas la fin. C'est-à-dire qu'ils ne se trompent pas ceux qui perçoivent une certaine vanité dans la vie humaine, et pourtant ils se trompent lorsqu'ils n'arrivent pas à cerner qu'il s'agit de l'incapacité, qu'une vie est vaine lorsqu'elle se révèle incapable d'atteindre sa raison d'être. Or, la raison d'être de la vie humaine ne s'atteint que grâce à l'aide de Dieu qui s'appelle la grâce. C'est pour cela que lorsque le maître d'hôtel dit « Mais toi, tu as réservé le bon vin jusqu'à présent, jusqu'à maintenant », nous devons comprendre que tous les efforts de l'homme qui procèdent ou bien de sa volonté propre ou bien de certaines grâces qui sont données à tous par Dieu mais d'une façon inefficace, eh bien, le pousse à s'enivrer. Et une fois qu'il est complètement ivre, en quelque sorte, ivre de lui-même, ivre de ses réalisations ou ivre de sa nullité, hein, ça dépend, chacun son destin, mais il vient à la conclusion qu'il n'a pas de vin, que ce vin n'en est pas un. Et il fait l'expérience de la vanité de la vie, mais il ne comprend pas. Lorsque ce maître d'hôtel dit « Mais toi, tu as réservé le meilleur, le bon vin jusqu'à présent, jusqu'à maintenant », en réalité, il parle sans le savoir en parabole de la grâce de Dieu. Dieu laisse l'homme pécheur, l'homme c'est-à-dire l'homme tout court, faire l'expérience de la nullité de ses forces, de l'impuissance de ses forces, de son incapacité à atteindre sa raison d'être. Il lui laisse faire cette expérience de telle sorte que, lassé de lui-même, l'homme puisse comprendre eh bien, que Dieu seul possède la dispensation de ce vin qui donne, qui nourrit, qui fortifie et qui mène à la vie éternelle. Encore que celui qui arrive à cette conclusion-là a déjà reçu une grâce efficace de la part de Dieu, bien entendu. C'est pour cela que les auteurs nous disent que Dieu n'a pas donné le Sauveur dès le sortir du paradis. Lorsqu'on voit ce dont l'homme était encore capable de faire et juste après le paradis, juste après l'expulsion du paradis terrestre et pendant à peu près 1000 ans, on s'aperçoit que l'homme était tellement fort, tellement imbu de lui-même, tellement encore capable, disons, de travailler à sa propre gloire, qu'il a fallu que Dieu attende que le déluge se passe, que la tour de Babel se passe, que en quelque sorte, la condamnation des nations se réalise lors de la vocation d'Abraham, puisque la vocation d'Abraham correspond à l'adoption universelle par toutes les nations du monde de l'idolâtrie. Seul Abraham a échappé à cette idolâtrie, puisque Dieu l'en a préservé. Dieu n'a pas donné le sauveur tout de suite, il a attendu un grand nombre de chutes, si j'ose dire, de descentes, de paliers qualitatifs, en quelque sorte, afin que les hommes, arrivés à un certain moment, puissent non pas comprendre spontanément, mais puissent ne pas résister à la démonstration évangélique qui consiste à dire « l'homme sans Dieu ne peut rien ». Si nous n'en sommes pas encore arrivés là, mes très chers frères, chacun de nous, individuellement, eh bien, qui écoutons, qui parlons, eh bien, c'est que nous sommes encore dans une telle confiance de nous-mêmes que l'Écriture nous décrit comme ivres et incapables de raisonner. Nous sommes enivrés de notre propre excellence et nous sommes donc insensés. Dieu n'a pas donné le Sauveur dès la chute. Il fallait que l'homme apprenne à le désirer, et on ne peut désirer le Sauveur que dans la mesure où on fait le constat de l'échec fondamental de nos propres forces, de l'impuissance de nos propres forces. Je ne dis pas que nous devons faire le constat d'avoir échoué partout, parce qu'il y a des gens qui échouent, évidemment, et puis il y a des gens qui n'échouent pas, puisqu'ils sont assez malins pour s'en tirer dans leur vie. Néanmoins, les uns comme les autres doivent faire ce constat sous l'influence surnaturelle de la grâce que sans moi, sans le Christ, nous ne pouvons rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire, dit le Christ. Si nous ne comprenons pas, si nous n'avouons pas, si nous ne confessons pas que sans la grâce du Christ, nous ne pouvons rien faire, aucune bonne œuvre n'est méritoire, aucune bonne œuvre n'est digne d'être appelée bonne, puisque Dieu seul étant bon, toutes les bonnes œuvres que les hommes sont capables de faire par leur propre force ne sont que des reflets de bonnes œuvres, puisque l'essence, la substance même de la bonne œuvre n'y est pas, puisque la charité n'y est pas. Alors, si nous arrivons à cette conclusion-là, c'est que Dieu nous appelle à lui, et Dieu veut nous faire prendre conscience qu'il n'y a que lui qui tient en réserve ce bon vin réservé jusqu'à présent, dont nous n'avons jamais goûté. Au temps marqué, nous dit l'Écriture, notre Seigneur Jésus-Christ est invité aux noces. Il est envoyé, c'est-à-dire il est envoyé aux noces de Cana. Il est envoyé par Dieu, il est envoyé par Dieu dans le monde afin de racheter les hommes. La Sainte Vierge, nous dit l'Évangile, était présente aussi. C'est pour ça qu'il est écrit « et la mère de Jésus y était ». La Sainte Vierge intercède pour les hommes. La Sainte Vierge est la première créature à avoir bénéficié de la rédemption accomplie par notre Seigneur Jésus-Christ. Elle a bénéficié par anticipation de la plénitude de la rédemption, de telle sorte qu'elle n'a jamais été touchée, même un seul instant, par le péché originel. C'est d'où le privilège de son Immaculée Conception. Mais il se trouve que la Sainte Vierge, qui est la première des créatures de Dieu, la plus belle et la plus sainte des créatures de Dieu, si on fait abstraction de l'humanité de notre Seigneur, bien entendu, il se trouve que la Sainte Vierge intercède pour nous. Elle est présente, elle était présente dans le monde, elle est présente au ciel, auprès de Dieu, elle intercède pour nous. Mais il se trouve qu'il y a un grand principe ici auquel on ne pense pas souvent, mais que de nombreux auteurs soulignent, c'est que, quoique la Sainte Vierge intercède pour les hommes, notre Seigneur Jésus-Christ n'obéit qu'à son Père. Ça ne veut pas dire qu'il n'écoute pas sa mère, ça ne veut pas dire qu'il ne l'exauce pas, mais il l'exauce dans la mesure où la prière de sa mère est une prière qui correspond à la volonté du Père. La Sainte Vierge veut tout ce que le Père veut, et elle demande à son fils le salut de ceux que son père veut sauver. C'est pour cela que dans l'Ancien Testament, nous avons un exemple frappant de l'intercession de la très sainte Vierge Marie pour les hommes. Il se trouve que c'est lorsque Adonijah, qui vient, le frère de Salomon, qui venait d'être sacré roi, et qui venait de pardonner à son frère, qui s'était fait plus ou moins proclamer roi par un petit nombre de dignitaires. Bref, lorsque Adonijah vient auprès de Bethsabée, la reine, la mère de Salomon, et lui demande donc pour épouse la nurse en quelque sorte de son père, lorsqu'il était avant de mourir, eh bien la mère du roi lui dit qu'elle intercédera pour lui auprès du roi. Et le roi lorsqu'il entend cette supplique, qu'est-ce qu'il fait en guise d'exaucement à sa mère? Il fait exécuter son frère, à juste titre. Pourquoi? Parce que, dit-il, c'est la royauté que tu demandes pour lui. La Sainte Vierge intercède pour tous ceux qui lui demandent d'intercéder pour eux. La Sainte Vierge intercède auprès de son Fils, c'est pour cela que nous invoquons la Sainte Vierge, mais le Fils de Dieu, qui est égal au Père, puisqu'il est un en divinité avec lui, dans l'unité du Saint-Esprit, le Fils sait et connaît la volonté de Dieu, son Père, puisqu'il est Dieu, et il fait la volonté de son Père. Non pas qu'il n'écoute pas la très Sainte Vierge Marie, mais les prières de la Sainte Vierge ne sont efficaces que pour ceux auxquels Dieu a déclaré sa bonne volonté dans le mystère incompréhensible de sa volonté. Donc que personne ne connaît sauf lui-même. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que lorsque notre Seigneur abroue en quelque sorte sa mère en lui disant « Femme, qu'y a-t-il entre moi et vous? Mon heure n'est pas encore venue », il lui dit, ou il nous dit plutôt, parce qu'elle, elle le sait et elle est dans l'adoration des saints éternels de Dieu, il lui dit « Tout ce que vous demanderez pour les hommes, je le ferai dans la mesure où mon Père sera glorifié. » Et c'est pour cela que, mes très chers frères, nous devons recourir à la Sainte Vierge pour qu'elle, en quelque sorte, décuple notre prière qui est si faible, pour qu'elle la transmette à son Fils, pour qu'elle l'apporte à son Fils. Mais nous ne devons pas prier la Sainte Vierge contre son Fils. Un peu comme des fois les enfants, la maman dit, le papa dit non, et alors ils vont vers la maman pour, en posant la même question pour voir un peu si la maman ne dirait pas oui. La Sainte Vierge est tellement unie à Dieu, qu'on dit parfois la Divine Vierge. On pourrait le dire, on peut le dire d'une certaine manière, dans la mesure où l'on sait que la Sainte Vierge est totalement unie à Dieu, de telle sorte qu'elle ne veut que ce que Dieu veut. À aucun moment, Bethsabée n'a pris la défense d'Adonijah. Et il ne faut pas croire que ce n'est parce que ce n'était pas son fils, elle n'a pas eu de compassion pour lui. Mais elle était tellement, la reine-mère était tellement unie à la volonté et à la cause de la gloire de son fils et du règne de son fils Salomon, que lorsque Salomon ne l'a pas exaucé, mais a fait exécuter son frère qui voulait en réalité commettre s'avancer pour usurper la royauté, eh bien, elle n'a rien dit et elle a acquiescé en quelque sorte à la volonté souveraine de son fils. C'est un exemple assez terrible pour nous, puisque nous devons comprendre que tous ceux qui nous racontent dans les livres ou en chair ou ailleurs que la Sainte Vierge est un recours auquel nous pouvons avoir recours lorsque son fils nous refuse de nous ouvrir la porte, la Sainte Vierge est celle qui nous ouvrira la porte parce qu'elle ne refuse rien à ceux qui ont recours à elle, eh bien ces gens-là nous trompent en réalité. Nous devons recourir à la Sainte Vierge avec une grande confiance, nous devons recourir comme à elle, comme à celle qui est la médiatrice de toutes les grâces. Bien sûr, ce n'est pas trop lui dire que d'affirmer cela, mais elle est la médiatrice des grâces qui ne lui appartiennent pas. Elle est médiatrice des grâces, des seules grâces que Dieu veut bien donner. Il faut avoir confiance en Dieu, avoir confiance en notre Seigneur, avoir confiance en la Sainte Vierge, si j'ose dire, pour demander avec une simplicité d'enfant, avec foi que nous allons obtenir, puisque nous savons que tout ce que nous demandons au nom du Christ pour que le Père soit glorifié, nous l'obtiendrons. Mais il se trouve que nous devons prendre conscience que nous ne pouvons pas demander n'importe quoi en faisant n'importe quoi, et que sous prétexte que nous sommes les dévots de la Sainte Vierge, nous serons emmenés au ciel par elle, indépendamment et par une sorte de court-circuit des commandements du Christ. Il est absolument impossible de bénéficier de l'intercession de la très Sainte Vierge Marie si nous ne sommes pas en parfait accord avec les commandements de son Fils. Elle intercède pour les hommes, elle intercède généreusement, elle intercède de telle sorte qu'elle est la toute-puissance suppliante auprès de Dieu. Cela est vrai, les auteurs, lorsqu'ils nous disent ceci, cela est totalement vrai. Aucun pécheur ne doit s'abstenir de recourir à la très Sainte Vierge Marie qui est le refuge des pécheurs. Cela, tout ceci est vrai. Mais il se trouve qu'elle ne nous dit qu'une seule chose. Lorsque son fils la prévient que tout ce qu'elle demandera, il l'accomplira dans la mesure où son père le veut, eh bien, elle nous dit une seule chose. Que nous dit-elle? Elle nous dit, faites tout ce qu'il vous dira. On a ce rapport dans certains ouvrages d'un prédicateur au XVIIIe siècle qui, commentant la parabole des dix vierges, disait, vous savez, l'Évangile dit que les vierges folles plus précisément, les vierges folles, eh bien, frappant à la porte qui venait de se fermer, disaient « Seigneur, Seigneur, ouvrez-nous ». Et le Seigneur n'a pas voulu leur ouvrir. Et ce prédicateur indiscret disait « Si seulement elles avaient dit « Madame, Madame, ouvrez-nous », la porte serait ouverte ». C'est un abus caractéristique, c'est quelque chose qui doit nous remplir d'horreur et d'indignation. Si le Christ ferme la porte, mes très chers frères, il a dit lui-même à Saint Jean dans l'Apocalypse, il a dit « Je suis celui qui tient la clé, si j'ouvre, personne ne fermera, si je ferme, personne n'ouvrira ». La très sainte Vierge Marie est capable de nous ouvrir la porte dans la mesure où son Fils nous ouvre la porte. Et comment nous ouvrira-t-il la porte ? Si nous ne faisons pas tout ce qu'il nous dit. Et c'est elle-même qui nous le dit, faites tout ce qu'il vous dira. La très sainte Vierge a très peu parlé dans l'Évangile et elle parle très peu. C'est pour cela que tout ce qui est de sorte de discours fleuve de la Sainte Vierge n'est pas de la Sainte Vierge et c'est plutôt du démon en réalité. La Sainte Vierge ne parle que très peu et tout ce qu'elle dit, c'est la parole même de Dieu. Faites tout ce qu'il vous dira. Notre Seigneur dit, sans moi vous ne pouvez rien faire, et la Sainte Vierge dit, faites tout ce qu'il vous dira. Il y a là une complémentarité de ces deux paroles qui, si on les médite bien, constituent en fait l'essentiel de la vie chrétienne. Si nous voulons être exaucés, si nos prières à la Sainte Vierge, nous voulons qu'elles soient exaucées, nous devons comprendre que, nous l'avons dit, notre Seigneur n'obéit qu'à son Père, et ensuite que l'exaucement est différé jusqu'au temps de Dieu. C'est pour cela qu'il dit à sa mère, c'est-à-dire à nous, à ceux pour lesquels elle intercède, « Mon heure n'est pas encore venue ». Ce n'était pas encore précisément l'heure du Christ. Ça l'était dans la mesure où elle a appris aux hommes, la très sainte Vierge Marie, à faire tout ce que le Christ nous commande. Alors, à ce moment-là, son heure est venue, et il se trouve que le moyen de se préparer à l'exaucement, au temps convenable par Dieu, convenu par Dieu, eh bien, le moyen de s'y préparer, mes très chers frères, c'est de pratiquer, a priori, l'obéissance envers tous les commandements de notre Seigneur Jésus-Christ. Il ne faut pas se lasser de prier, il ne faut pas se lasser de faire le bien, nous dit saint Paul, parce que nous moissonnerons au temps convenable. Et la très sainte Vierge Marie nous porte nécessairement à l'obéissance totale à notre Seigneur Jésus-Christ. Nous passons à notre deuxième point qui nous amène à regarder de près comment nous devons obéir à notre Seigneur. Puisque la Sainte Vierge nous a appris à obéir en tout, tout le temps, toujours, quoi qu'il nous en coûte, au Christ, que nous dit le Christ ? Jésus leur dit « Remplissez d'eau ces urnes ». Qu'est-ce que cela signifie ? Saint Bernard dit que cela signifie, pour les prédicateurs, imprimer la crainte de Dieu dans les hommes et remplissez leur cœur de cette crainte salutaire. Cette eau, ici, ces urnes étaient vides et elles devaient être remplies d'eau. Voilà le commandement du Christ. Remplissez d'eau ces urnes. Saint Bernard nous dit donc qu'il s'agit ici, dans un premier temps, de la crainte de Dieu. Cette crainte de Dieu qui est, en quelque sorte, nous dit l'Écriture en plusieurs endroits, le commencement de la sagesse, comme l'eau n'est pas un breuvage enivrant, contrairement au vin, c'est un breuvage, disons, qui est très nécessaire à ceux qui meurent de soif. C'est une substance qui est très nécessaire à ceux qui sont sales et souillés, puisqu'elle lave, elle rafraîchit, elle rend les forces, et des premières forces, en quelque sorte, à ceux qui étaient déshydratés, comme on dit aujourd'hui. Remplissez d'eau ces urnes signifie remplissez le cœur de l'homme, remplissons chacun de notre cœur avec l'aide de Dieu, de la crainte salutaire de Dieu. La crainte de Dieu est la porte de l'amour en réalité. Il s'agit de la crainte de déplaire à Dieu en transgressant l'un ou l'autre de ses commandements. Vous voyez, lorsque la Sainte Vierge nous dit « faites tout ce qu'il vous dira », elle ne nous dit pas simplement « suivez la marche à suivre pour être béni ». Elle nous dit « si vous ne voulez pas être considérés comme des gens qui meurent de soif, commencez par craindre Dieu ». Ayez la conscience sensible de telle sorte que vous craigniez à tout moment de sortir du sentier étroit qui mène à la vie et en dehors duquel nul ne peut plaire à Dieu, qui est le sentier de la foi, le sentier de la charité et le sentier de l'espérance. Ayez, craignez de déplaire à Dieu. Beaucoup de gens aujourd'hui, malheureusement, n'ont pas la moindre hésitation quand il s'agit, non pas de plaire à Dieu, mais de savoir s'il plaise à Dieu, mais même de défendre les intérêts de Dieu. Donc tout le monde se met à défendre les intérêts de Dieu, chacun chacun ouvre une boutique différente pour vendre toutes sortes de défenses de l'honneur de Dieu, et personne ne se pose la question de savoir s'il plaise en faisant cela à Dieu. Agir de façon désordonnée, c'est déplaire à Dieu. Faire des œuvres bonnes, nous disent les auteurs moralistes, faire des œuvres bonnes mais qui ne nous reviennent pas à nous, c'est déplaire à Dieu. Oui, on peut faire des œuvres bonnes et qui sont indiscrètes. On peut nourrir les pauvres en oubliant et en négligeant de nourrir sa famille d'abord. C'est une œuvre bonne en soi, nourrir les pauvres est une chose excellente, mais si vous négligez votre famille pour le faire, vous commettez quelque chose qui ne plaît pas à Dieu, même si c'est une œuvre bonne en soi. Voyez, nous pourrions donner plein d'autres exemples. Cette crainte de Dieu, cette crainte dont nous devons remplir notre cœur, est fondée, nous dit Saint Bernard toujours, sur la connaissance de notre faiblesse. Pourquoi ? Parce que Saint Bernard nous dit, contrairement au vin, l'eau est une substance qui est insipide. Lorsque nous goûtons à cette eau, et que nous avons la connaissance au moins théorique de ce bon vin que le Christ tient en réserve jusqu'à maintenant, eh bien, lorsque nous goûtons cette eau, dis-je, nous faisons l'expérience de notre faiblesse. Comparée au vin, l'eau est extrêmement insipide, elle ne vaut rien comparée au vin, lorsqu'on la compare du point de vue du goût. Eh bien, Saint Bernard nous dit que cette crainte doit être fondée sur la connaissance de notre faiblesse. Nous ne devons pas simplement craindre, comme des gens, disons, pleins d'orgueil, qui voudraient plaire à Dieu et qui craindraient de lui déplaire en commettant un péché. Un petit peu comme, mettons, un perfectionniste aurait peur de commettre une erreur parce qu'il s'imaginerait qu'il en serait déshonoré. Eh bien, là, ce sont des gens orgueilleux qui voudraient plaire à Dieu, donc du coup, qui observeraient les commandements de Dieu simplement pour pouvoir avoir la satisfaction de dire, eh bien, je ne transgresse aucun commandement, donc Dieu est satisfait de moi. Cette crainte doit être fondée, dit Saint Bernard, sur la connaissance de notre faiblesse. Nous devons avoir peur de déplaire à Dieu, non pas parce que nous ne sommes pas aussi excellents que nous pourrions l'être, mais parce que, étant faibles, nous sommes incapables de plaire à Dieu sans Dieu. Et c'est pour ça que Saint Bernard nous dit, non seulement notre Seigneur dit « remplissez d'eau ces urnes », mais lorsque les serviteurs qui avaient écouté la Sainte Vierge obéissent, que font-ils ? Ils les remplirent jusqu'au bord. Il ne sert à rien, dit Saint Augustin, il ne sert à rien de nous humilier partiellement. Il faut que l'urne que nous sommes soit remplie jusqu'au bord. Étrange façon d'obéir à notre Seigneur quand il dit remplissez d'eau ces urnes, la moitié, les trois quarts, les 9/10 auraient été suffisants, on risque de renverser. Il y a un sens mystique. Ils les remplirent jusqu'au bord. Il faut que toute la capacité de notre cœur, de notre esprit, soit remplie de la crainte de Dieu que nous inspire notre faiblesse, la connaissance de notre faiblesse. Il ne sert à rien de nous humilier partiellement, il ne sert à rien de reconnaître notre faiblesse en telle ou telle chose, mais et pas en toutes. Si quelqu'un, dit Saint Paul, croit être quelque chose alors qu'il n'est rien, il se trompe, il s'abuse, il se trompe, et se séduit lui-même. Notre Père Saint Augustin dit « La vanité est une maladie par laquelle l'homme qui n'est rien, l'homme qui n'est rien, s'imagine être quelque chose. Personne n'est quelque chose. » Vous allez dire « Oui, mais moi je ne suis pas rien du tout, je suis quand même quelque chose, j'ai des qualités, j'ai ceci et cela. » Si vous avez vraiment ceci et cela, rendez-en grâce à Dieu, et souvenez-vous ce que dit Saint Paul, « Connais-tu que tu n'es reçu ?» Vous allez dire, oui, mais c'est la nature qui me l'a donné, c'est mes parents, c'est une bonne constitution. Eh bien, rendez grâce à Dieu. Vous allez dire, oui, mais j'ai reçu tout ceci sans être dans l'Église. Eh bien, rendez-en grâce encore plus à Dieu, puisque c'est exceptionnel que vous ayez réussi à recevoir quelque chose de bon en dehors de l'Église. Mais il y a des choses bonnes en dehors de l'Église, et il faut qu'elles soient rassemblées et qu'elles servent à l'intérieur de l'Église. Une bonne éducation, une bonne constitution, une bonne, si j'ose dire, une bonne physiologie, tout ceci ne sert que dans la mesure où nous recevons la grâce sanctifiante. Sinon, au mieux, ça nous sert à nous enorgueillir, et donc à mériter une place plus grave en enfer, ou alors tout ceci s'évapore, et quelque excellente que soit l'éducation qu'on a reçue naturellement, eh bien, elle en vient à la première occasion à se dissiper et à se détruire, et à être oubliée. Nous ne devons pas nous humilier en quelque chose simplement, mais en tout. Il ne faut pas nous humilier à demi, nous élevant en quelque chose, nous dit un auteur. La fonction de la Très Sainte Vierge Marie est de nous disposer à obéir en toute chose à son Fils. Et nous ne l'honorons, la Sainte Vierge, qu'en imitant sa patience, son humilité et son obéissance. Comment savoir si nous nous humilions sous la main puissante de Dieu en toute chose ou simplement en quelque chose? Il y a bien tel ou tel domaine dans notre vie où nous faisons mine de nous humilier, où nous humilions même assez volontiers et assez sincèrement, pourquoi pas. Mais il y a d'autres domaines où il faut que Dieu nous aide d'une façon encore plus robuste, si l'on peut dire, plus roborative. La Sainte Vierge, en nous fournissant l'exemple face au rebut du Christ, un exemple de patience, d'humilité et d'obéissance, car les auteurs nous disent que à ce moment-là, la Sainte Vierge n'était plus la mère auquel le Christ était soumis, puisque cela n'était vrai que durant le temps de sa vie cachée. À partir de ce moment-là, elle s'avère la servante du Seigneur comme elle était au commencement. Elle est la servante du Seigneur, et que dit la servante du Seigneur aux hommes qui sont aussi les serviteurs du Seigneur, ou qui doivent le devenir? Faites tout ce qu'il vous dira. Donc, nous nous humilions bien en plusieurs choses qui, d'une certaine manière, sont grossières et qui ne peuvent pas être conservées par nous, donc nous nous humilions dans tel ou tel domaine, mais nous refusons de nous humilier en d'autres domaines. Faisons attention, Dieu nous exercera par l'humilité, par la patience et par l'obéissance à l'humilité. C'est-à-dire qu'il va nous forcer à être humbles dans des domaines où nous faisons l'expérience que nous avons de la difficulté à nous humilier. Si Dieu nous laisse nous humilier à demi et nous laisse nous élever en quelque chose de telle sorte que nous soyons d'une sorte de chrétien monstrueux qui est à moitié humble et à moitié orgueilleux, et si Dieu nous laisse dans cette disposition, sachez bien mes très chers frères, et c'est une disposition qui est, si on peut dire, elle est tout bénéfice, comme on dit un peu vulgairement, pour les chrétiens, c'est-à-dire qu'il a la certitude d'être humble, et en même temps il a la satisfaction d'être légitimement orgueilleux dans certaines choses. Si Dieu nous laisse persévérer dans cette situation très, très agréable, c'est qu'il nous abandonne. Si Dieu ne nous abandonne pas, alors il va s'attaquer à ce que nous avons de plus précieux. Et c'est pour cela qu'il est écrit dans l'Écriture, vous rongez comme la teigne ce que l'homme a de plus cher. Si Dieu nous aime, il nous châtie, parce qu'il nous châtie comme ses fils. S'il ne nous châtie pas, c'est qu'il ne nous aime pas. Malheur à celui qui vit une vie chrétienne faite de demi-humilité et de demi-orgueil, une vie équilibrée, comme on dit, aux yeux d'une certaine piété, une vie qui est faite de certains délices, et de délices positifs, légitimes, selon nous, et de délices spirituels qui viennent de la satisfaction que nous avons d'être quand même relativement humble, puisque nous parlons de l'humilité, ou d'être relativement patient, relativement obéissant, etc., dans d'autres domaines. Malheur à celui qui a réussi à forger sa vie chrétienne de cette manière-là, et qui est dans une ornière dont Dieu ne le sort pas, ne le retire pas. Nous devons trembler, mes très chers frères, et comprendre que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse, et si nous croyons être sages et que la crainte de Dieu ne nous pousse pas à une véritable humilité en toute chose, alors ça signifie que nous sommes insensés en réalité. Écoutez ce que nous prierons tout à l'heure dans la prière dite secrète. Sanctifiez, Seigneur, ces dons qui vous sont offerts et purifiez-nous des souillures de nos péchés. Voilà une prière propre à exciter en nous l'humilité. Dieu sanctifie ses propres dons Et il nous purifie des souillures de nos péchés. Qu'est-ce que c'est ces souillures? Il ne faut pas s'imaginer que nous venons tout souillés à la communion et que nous venons communier et que la communion est une sorte de racloir qui nous racle la boue et l'ordure et tous les excréments qui sont sur nous dus à nos péchés, le fait que nous nous vautrons comme un porc dans le péché. Bien sûr que non. Sanctifiez Seigneur ces dons qui vous sont offerts et purifiez-nous des souillures de nos péchés. Qu'est-ce que les souillures du péché dont les communiants demandent à Dieu d'être purifiés? Eh bien, mes très chers frères, ce sont les traces qui restent après l'absolution. Ce ne sont pas les péchés mortels, ce sont les traces qui restent après l'absolution. Lorsque nous avons enfin obtenu l'absolution, lorsque nous avons véritablement fait en sorte, avec l'aide de Dieu, de nous fixer dans un état de justice stable, eh bien, mes très chers frères, il reste encore ces souillures, ces traces qui sont appelées souillures. Alors vous allez dire, mais après tous les efforts que j'ai faits, on parle encore de souillures. Oui, mes très chers frères, on en parlera tant que vous imaginez que ce n'est pas des souillures. Ce sont ces traces qui restent après l'absolution, ce sont ces péchés véniels qui sont si peu importants à nos yeux, ce sont ces tendances, ce sont ces vices latents. Ce sont ces choses dont un certain nombre d'entre elles, nous ne serons débarrassés qu'après notre mort. Il se trouve qu'il est impossible aux chrétiens de vivre toute une vie sans commettre au moins un péché véniel. Alors a fortiori, donc pour les grands saints, alors a fortiori pour les autres. Ces traces qui sont appelées souillures, mes très chers frères, ce sont ces péchés véniels auxquels nous ne renonçons pas, ce sont ces tendances, ce sont ces vices latents qui peuvent toujours ressurgir en nous. Ce sont toutes ces choses qui font que sans lui, sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Et la grâce vient, elle transforme la plupart de ces choses, elle les abat, elle les tue, elle les stabilise en quelque sorte, elle les neutralise. Mais il faut qu'elle le fasse toujours plus. Parce que le grand obstacle à la grâce, ce n'est pas tellement les choses que la grâce combat, ça ce n'est pas un obstacle du tout, mais c'est l'amour que nous leur portons. Lorsque j'ai une faiblesse et qu'elle me conduit à commettre des péchés véniels, mais qui sont très soigneusement distingués des péchés mortels, eh bien, je m'oppose à la grâce d'une façon beaucoup plus sournoise et beaucoup plus violente qu'un pécheur d'habitude qui retombe constamment dans des péchés gravissimes et énormes et qui se repent. Pourquoi? Eh bien, parce que le pécheur d'habitude qui se repent et qui confesse qu'il est vautré dans la boue, eh bien, en quelque sorte, prépare son cœur à recevoir une plus grande grâce, une grâce de rétablissement, de restauration, parce qu'il ne peut pas faire autrement que de reconnaître qu'il est complètement dans la souillure. Tandis que celui qui a dans lequel la grâce a déjà bien œuvré, par la grâce de Dieu, Deo Gratias, mais dans lequel la grâce a bien œuvré, est tenté par un orgueil secret qui lui fait avoir une infinie complaisance pour certaines choses minuscules qui ne sont même pas remarquables chez les grands pécheurs, mais qui sont appelés souillures chez les bons chrétiens. Que chacun s'examine soi-même. Le défaut de crainte de Dieu pollue toutes nos bonnes actions, qui sont toujours, nous dit un père, toujours trop mondaines. Ce sont des vols que nous faisons à Dieu, des vols caractérisés que nous faisons à Dieu, chaque fois que, ayant obéi à Dieu, nous en tirons une certaine satisfaction selon la chair. Ce sont des vols que nous faisons. Comment obéir à Dieu? Comment remplir, ayant rempli les urnes jusqu'à ras-bord de la crainte de Dieu, la crainte salutaire de Dieu, qui est la porte de l'amour de Dieu, qu'est-ce que ça signifie? Comment mettre en pratique? Eh bien, c'est très simple. Regardez l'épître qui semble n'avoir absolument aucun lien avec l'évangile et pourtant qui a un lien très caractérisé. Dans cet épître, saint Paul nous dit « Que la charité soit sans déguisement, ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien, aimez-vous mutuellement d'une affection fraternelle, prévenez-vous par des égards réciproques, ayez du zèle et non de la paresse. » Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur, soyez joyeux dans l'affliction, patients dans l'attente, patients dans l'affliction, persévérants dans la prière. Prenez part aux nécessités des saints, exercez l'hospitalité avec empressement, bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent, ayez les mêmes sentiments les uns pour les autres, n'aspirez pas à ce qui est élevé, mais accommodez-vous de ce qui est plus humble. C'est ça le résultat du fait de remplir jusqu'à ras-bord l'urne de notre cœur de cette crainte de Dieu qui est fondée sur la connaissance de notre faiblesse. L'ordre est la condition de la charité. L'amour fraternel est la vérification de notre amour pour Dieu. Le pardon des offenses est une clé pour vérifier si nous sommes vraiment chrétiens ou si nous ne sommes que des enfants du diable. Si nous avons été offensés et que nous pardonnons de bon cœur pour l'amour de Dieu, non pas parce que c'est une petite chose, mais pour l'amour de Dieu, alors véritablement, d'une certaine manière, nous commençons à faire ce que la Sainte Vierge veut que nous fassions, c'est-à-dire faire tout ce qu'il nous dit de faire. C'est pour cela que le premier martyr de la Nouvelle Alliance, Saint Étienne, a dit exactement les mêmes paroles de notre Seigneur en croix, « Pardonnez-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Eh bien, mes très chers frères, en obéissant à cette exhortation de la très Sainte Vierge Marie, « Faites tout ce qu'il vous dira », la charité sera sans déguisement, nous aurons le mal en horreur, nous nous attacherons fortement au bien, etc. Nous ne pouvons pas avoir rempli réellement, avec l'aide de Dieu, l'urne de notre cœur, de la crainte et de l'amour de Dieu, sans que cela ne se manifeste par des œuvres, une abondance d'œuvres bonnes à la gloire de notre Père céleste. Si l'une de ces caractéristiques énoncées par saint Paul ici et ailleurs, si l'une de ces caractéristiques fait défaut, ça signifie que notre esprit est, jusqu'à un certain point, encore enivré par le vin grossier de la concupiscence. J'ai le mal en horreur. Sur mon blog, je dénonce toutes les turpitudes du monde moderne. Je m'attache fortement au bien. C'est pour ça que je vends des mugs et des chandails pour promouvoir le bien. Vous voyez, je suis joyeux dans l'attente, patient dans l'affliction. Bon, ça, personne ne le voit, ne peut le constater quantitativement, donc je passe. Je prends part aux nécessités des saints. J'aide à tirer l'arigot, toutes sortes de missions indépendantes qui font finalement le travail que les évêques et les prêtres ne font pas, soi-disant. Tout ceci est dans le désordre. Voyez, tout ceci, ce n'est pas parce que, d'une certaine manière, nous ne faisons pas des choses mauvaises, positivement mauvaises, que nous ne faisons pas quelque chose qui nous faisons des choses qui plaisent à Dieu. Si l'une de ces caractéristiques fait défaut ou si elle est adultérée, alors ça signifie que notre esprit est encore enivré du vin grossier de la concupiscence. Il nous faut nous juger nous-mêmes, non pas jeter la pierre aux autres, bien entendu, mais nous juger nous-mêmes, et il faut continuer à remplir l'urne jusqu'au bord. N'oublions pas, mes très chers frères, que nous ne sommes pas des vrais dévots de la très sainte Vierge Marie si nous ne remplissons pas les urnes jusqu'au bord. Sans quoi, nous n'aurons pas fait... Faute de quoi, nous n'aurons pas fait tout ce que notre Seigneur nous aura dit de faire. Et donc, nous n'aurons pas obéi à la très sainte Vierge Marie. Nous terminons par notre troisième point, par cette considération. Écoutez la fin de l'Évangile. Jésus fit là le premier de ses miracles à Cana en Galilée, et il manifesta sa gloire. Et ses disciples crurent en lui. Il manifesta sa gloire. Sa gloire a été manifestée par ce miracle, qui n'est pas un petit miracle, mais ce miracle n'a vraiment d'intérêt, si l'on peut dire, parce que d'une certaine manière c'était bien pour les gens de la noce, mais d'une certaine manière c'est un miracle très limité. Ce miracle manifeste sa gloire. Comment ? Parce qu'il a transformé six urnes de d'eau en vin. Encore une fois, c'est un grand miracle, c'est un miracle très beau, mais parce que c'est la signification de ce miracle qui manifeste la gloire du Christ. Tous les commentateurs nous disent que la transformation de l'eau en vin est bien sûr une référence à la transsubstantiation eucharistique. Mais il y a aussi autre chose, la transformation de l'eau en vin, c'est la manifestation, c'est une illustration de l'œuvre de la grâce sanctifiante, cette grâce-là que la loi de Moïse faisait désirer sans apporter. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. L'eau changée en vin représente, nous disent les auteurs, la grâce sanctifiante, la grâce du réparateur, pas les petites grâces que Dieu donne un peu partout et qu'il donnait même dans l'Ancien Testament, la grâce qui transforme le cœur. C'est la conversion qui fait d'un cœur déréglé un cœur vraiment chrétien. Jusque-là, nous n'avions pas de vin. Ceux qui se confient en eux-mêmes s'abuse gravement, nous l'avons vu. la méprise du maître d'hôtel qui ne savait pas d'où venait cette eau, eh bien, peut nous fournir une sorte d'aide pour nous juger nous-mêmes, qu'il est difficile de se juger soi-même. Alors des fois, souvent on accepte d'être jugé par le prêtre au confessionnal, mais enfin bon, il ne faut pas qu'il aille trop loin, il ne faut pas que ça dure trop longtemps, et puis il faut surtout qu'il nous donne l'absolution rapidement, parce qu'on n'a pas que ça à faire. Bon, là c'est déjà mal parti. Donc, néanmoins, pour le bon chrétien, qui ne demande qu'à être jugé, il peut même, sans forcément le dire, mais en faisant bon usage, il peut même utiliser pour se juger lui-même l'appréciation que les mondains ont de lui. Qu'est-ce que ça signifie ? Le maître d'hôtel, nous dit l'Évangile, le maître d'hôtel, ne sachant d'où venait ce vin, quoique les serviteurs qui avaient puisé l'eau le sachent bien, il appela l'époux et lui dit « Tout homme sert d'abord le bon vin, etc. » Donc, manifestement, notre Seigneur n'a pas été remercié pour cette transformation de l'eau en vin, c'est plutôt le maître d'hôtel qui a félicité l'époux, dont on ne dit pas le nom ici, et historiquement parlant, c'est quelqu'un qui a reçu des félicitations qui indues en quelque sorte. Bien souvent, mes très chers frères, les mondains qui nous connaissent, les mondains qui sont nos amis ou qui sont notre famille plus précisément, les mondains croient savoir pourquoi nous avons changé, pourquoi nous nous sommes convertis. Ils n'ont la plupart du temps pas raison sur le fond, parce qu'ils méconnaissent complètement l'œuvre de la grâce, et ils ne savent pas que Dieu choisit qui il veut, et Dieu appelle à la vie qui il veut. Mais d'une certaine manière, ils n'ont pas non plus totalement tort sur tout. Les mondains ont une petite idée de savoir pourquoi nous avons changé. Eh bien, faisons, mes très chers frères, en sorte que leurs analyses, quelque partielles qu'elles soient, nous aident à nous renseigner sur l'image que nous donnons. Est-ce que notre conversion n'est jamais qu'un changement psychologique ? Ou est-elle une œuvre de la grâce ? Vous voyez, bien souvent, il y a des gens qui se convertissent, qui changent radicalement de vie, mais c'est tout simplement parce qu'ils étaient engagés dans une voie qui ne correspondait pas du tout à leur tendance personnelle. Vous voyez, c'est une personne qui, je prends un exemple tout à fait artificiel, mais j'en connais, c'est une personne qui était punk à chien et qui se convertit d'une façon éclatante, elle vend ses chiens, elle coupe ses cheveux, elle enlève les 3 kilos de ferraille qu'elle avait implanté dans le corps, et puis elle devient chrétienne. C'est très bien, mais si vous regardez bien cette personne, elle venait d'une famille un peu BCBG, cette personne, comme la plupart de ces gens d'ailleurs, cette personne était promise quand même à une certaine carrière, avait des capacités, c'est pas une personne, c'est une personne qui à un certain moment s'est dit « je suis en train de perdre ma vie » alors que d'autres sont en train de faire de l'argent, en train de gagner leur vie honnêtement, moi je suis en train de gâcher ma santé et à attraper les puces de mes chiens et à boire des bières bêtement, donc je vais me bouger ». Quelqu'un passe, lui parle de l'évangile, hop, cette personne devient chrétienne, c'est merveilleux, c'est très bien. Je ne dis pas que ce n'est pas une vraie conversion. Mais ses amis, ses parents vont dire, je savais bien que tu changerais, je savais bien que tu ne passerais pas toute ta vie dans cette abjection, parce que tu vaux mieux que cela. Alors on va dire, mais non, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu, mettons, mais est-ce entièrement la grâce de Dieu ? Vous allez dire, ce que vous dites est terrifiant. Ça veut dire que si on trouve un motif psychologique valable à notre conversion, ça veut dire que c'est une fausse conversion. Non, ce n'est pas ce que je dis, ce n'est pas cela que je dis du tout. Je dis simplement qu'il peut entrer dans notre conversion des motifs qui sont impurs. C'est-à-dire des motifs qui nous arrangent bien, de telle sorte que la conversion puisse faire de nous des gens un peu hors du commun. Imaginez que je sois un raté, que tout le monde méconnaît, et que par la conversion, je devienne surtout dans certains milieux, j'ai l'occasion de devenir docteur en Israël. Ah, que tout le monde révère. Évidemment, c'est un petit monde. Vous allez dire, j'ai renoncé à la gloire du siècle, j'ai renoncé aux récompenses académiques de l'université, j'ai renoncé à la Légion d'honneur, mais je fais ce que je peux pour le petit troupeau du bon Dieu. Qui vous a appelé ? Qui vous a demandé d'ouvrir la bouche ? Vous vous êtes converti simplement pour pouvoir briller dans un microcosme, alors que vous étiez inapte à avoir une place normale dans le macrocosme de la société. Vous allez dire, mais attendez, je suis vraiment converti. Mais je n'en doute pas, je n'en doute pas. Mais purifions, vous voyez, c'est vrai pour tout le monde. Purifions, purifions nos cœurs. Nous avons tous des bonnes raisons de nous être convertis. Vous voyez, j'étais moderniste, j'allais à la paroisse, j'allais à Rome avec les JMJ, j'acclamais sous les fenêtres de la basilique, j'acclamais le pape, etc. Et puis finalement, j'ai reçu la grâce de Dieu, et puis je suis devenu catholique, et maintenant, maintenant quoi ? Maintenant, je fréquente plus rien, je méprise les évêques, qui sont tous des traîtres, je ne vais plus tellement, je vais de ci et de là dans des chapelles, mais tout en réservant mon esprit critique à l'encontre des prêtres. Finalement, pourquoi vous êtes-vous converti ? Vous êtes converti pour sortir d'un certain ordre. Vous êtes converti parce que vous en aviez assez d'être un paroissien d'une paroisse, d'un diocèse qui était soumis au pape. Alors vous dites, c'est le faux pape. Oui, mais enfin, vous êtes surtout converti, vous avez changé de religion, parce que ça vous embêtait d'être dans un certain ordre. Vous voyez, vous étiez musulman, vous êtes converti, mais pourquoi ? Ah, parce que j'en avais assez, que Dieu, que l'imam me dicte sa loi, la loi de Dieu, fais pas ci, fais pas ça. Ah bon ? Et vous êtes devenu catholique pour qu'on arrête de vous dire, fais pas ci, fais pas ça ? Vous vous êtes trompé de religion, vous vous êtes converti à une religion que vous croyiez plus facile. Ah, il fallait se laver les mains, il fallait faire attention, il fallait faire... Ah, dans le christianisme, on n'a pas tout ça. Donc vous êtes un feignant alors. Vous êtes un souillon qui n'aime pas le principe des ablutions et des purifications. Mais le problème, c'est que les chrétiens en ont aussi, différemment, d'accord. Mais quand vous prenez de l'eau bénite en rentrant, certes, ce n'est pas les ablutions qu'on peut trouver dans d'autres religions, mais la logique est la même. Et c'est surtout l'ablution de l'âme. Vous voyez, mes très chers frères, jugeons-nous nous-mêmes, ne jugeons pas les autres, n'allons pas dire, je me demande quel est le motif psychologique qui a motivé la conversion de tel ou tel. Ce serait vraiment très mauvais, et ça serait un péché. Mais jugeons-nous nous-mêmes. Lorsque nos amis nous disent « Ah, ben oui, mais tu t'es converti parce que ceci ou cela », ne disons pas « Ah, ce sont des mécréants, c'est des mécréants ». Disons simplement « Mon Dieu, et si c'était un peu vrai ? Je sais que, par la foi, je sais que c'est vous qui m'avez appelé à la vérité. Mais est-ce que je n'en tire pas certains avantages pour moi-même ? Est-ce que je me suis converti pour faire tout ce que vous dites, maudite de faire, ou est-ce que je me suis converti parce que, si j'ose dire, le vin est meilleur ici que là-bas ? Me semble meilleur ici que là-bas. Attention, mes très chers frères, jugeons-nous nous-mêmes. L'usurpation de ce qui est à Dieu, c'est-à-dire quand on tire avantage de l'œuvre de la grâce en nous, c'est encore l'esclavage de la concupiscence. Jugeons-nous nous-mêmes, mes très chers frères. Nous savons que le jugement que les mondains portent sur nous est un jugement qui n'est, la plupart du temps, qui n'est pas vrai, qui n'est pas entièrement vrai, parce qu'il leur manque la connaissance de la véritable œuvre de la grâce de Dieu qui vient de la pure miséricorde de Dieu qui nous aime et qui nous a aimés dans le Christ. Mais vous voyez, il est écrit, et c'est pour cela qu'il est écrit, bien que les serviteurs, quoique les serviteurs qui avaient puisé l'eau, le sachent bien. Quoique nous le sachions bien, mes très chers, nous sachions bien que la grâce de Dieu agit en nous, conservons dans nos cœurs cette plénitude de l'hydre, cette plénitude de la crainte de Dieu, conservons dans notre cœur la connaissance, premièrement, de notre faiblesse, qui nous poussera toujours à demander à Dieu d'être toujours plus purifié des mauvais motifs, des mauvaises intentions, connaissance de notre faiblesse, et ensuite de la justice et de la grâce de Dieu, plus précisément. Bien connaître notre faiblesse, bien connaître la surabondance de la grâce de Dieu, nous conduit à la gratitude, mes très chers frères. Elle nous conduit à la gratitude. Et c'est cette gratitude qui nous fait prier, cette prière de post-communion, « Augmentez, Seigneur, votre action puissante en nos âmes, pour que la réception de vos divins sacrements nous prépare à recueillir les biens éternels dont ils sont la promesse. » Arriver à la connaissance, arriver à la communion arriver à la communion avec une âme puissamment préparée, mes très chers frères, c'est cela que nous devons viser, parce que les sacrements nous font passer de la terre au ciel. C'est le détournement de l'œuvre de la grâce au profit de notre satisfaction propre qui est la qui nous prive des biens éternels. Notre Seigneur a fait ce miracle pour manifester sa gloire, que notre vie, qui est le miracle de la grâce, et c'est vrai, nous ne devons pas en douter, mais que notre vie, qui est un miracle de la gloire, de la grâce, contribue à manifester la gloire du Christ, et non pas la nôtre propre, mes très chers frères. Gardons toute cette semaine en tête ce principe, Dieu nous a aimés pour lui. Le Christ nous a donné sa grâce pour que nous nous convertissions, afin que sa gloire se manifeste. Tout pour la gloire de Dieu, mes très chers frères, et pour nous, crainte et amour de Dieu, par la grâce de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Ainsi soit-il.